Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Nous sommes très honorés d'accueillir aujourd'hui Fabrice Midal, philosophe français, fondateur de l'école occidentale de la méditation et auteur de livres à succès dont le dernier livre s'appelle « Comment rester serein quand tout s'effondre ». Difficile de vous décrire en quelques lignes la puissance des propos de Fabrice. On vous laisse donc découvrir cet entretien qui a été pour nous d'une richesse exceptionnelle. Donc, bonjour Fabrice.
Bonjour.
Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. On a toutes les deux dévoré votre livre « Comment rester serein quand tout s'effondre » aux éditions Flammarion. Et cette rencontre tombe à point nommé parce que nous vivons des temps particulièrement déstabilisants et nos repères semblent s'effondrer. Et à travers votre livre, vous donnez certaines clés pour appréhender toute crise que l'on peut traverser. Donc on est ravis de pouvoir échanger avec vous autour de ce sujet et surtout voir comment les adultes peuvent rester sereins et mieux accompagner les enfants dont ils s'occupent en ces temps particuliers. Donc avant de parler de ça, on aurait bien aimé revenir sur votre parcours. Donc vous êtes philosophe, écrivain et l'un des principaux enseignants de la méditation en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le parcours qui vous a mené vers la méditation ?
Je faisais des études de philosophie à la Sorbonne. Un de mes camarades m'a parlé de méditation. À l'époque, c'était il y a 30 ans, c'était pas du tout connu la méditation. Mais comme en philosophie, on parle un peu de méditation. Il y a la méditation cartésienne, il y a un texte de Heidegger que j'aime beaucoup. Pensée calculante, pensée méditante, je me dis je vais aller regarder. Et puis j'ai frappé à la porte d'un appartement, quelqu'un m'a ouvert et il m'a expliqué ce qu'était la méditation. J'ai trouvé ça génial. C'était un neuroscientifique qui était un type absolument admirable, qui est décédé, mais qui s'appelait Francisco Varela, qui est l'auteur d'un livre « L'inscription corporelle de l'esprit ». Et j'ai beaucoup aimé son approche très rigoureuse de présentation de la méditation et ça m'a énormément inspiré et influencé. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut juste savoir que la méditation que je fais, que je transmets dans l'école de la méditation, qui est aujourd'hui la principale école laïque de méditation en France, ça ressemble pas tellement à l'idée que les gens ont de la méditation. Puisque pour la plupart des gens, méditer, c'est être zen, se calmer, faire le vide dans sa tête, observer ses pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Et tout ça, ça n'a aucun sens pour moi. Je trouve que ça crée, que c'est très égarant. Ce n'est pas du tout ça, à mon avis, la méditation, qui consiste à entrer en rapport à ce qu'on vit avec beaucoup d'honnêteté et apprendre à se relier même aux difficultés avec attention, bienveillance et clarté. Et donc, c'est une toute autre perspective. Et j'ai l'impression que l'idée actuelle de soyez zen, soyez calme, rend les gens extrêmement malheureux, extrêmement stressés, en fait, parce que on ne l'est pas. Et comme on s'adresse à des parents, vouloir qu'un parent soit zen, c'est juste inquiétant, parce que il y a des moments où on n'en peut plus. Quand l'enfant vient de naître, on a du mal à dormir. Il y a des moments, c'est dur. Et je pense qu'on est serein en acceptant qu'il y a des moments qui sont durs, plutôt qu'en voulant être dans une forme abstraite de détachement. Donc c'est cet engagement dans la méditation qui m'a parlé. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très inquiet et même un peu opposé à la manière dont dans beaucoup d'écoles la méditation entre aujourd'hui comme manière d'essayer de calmer les enfants. Je trouve que c'est pas un projet éducatif de vouloir calmer les enfants. Et j'ai des témoignages de parents qui me disent que dans leur école, enfin dans l'école de leurs enfants, quand l'enfant est trop agité, on le prive de récréation pour avoir un cours de pleine conscience. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Je trouve ça... Et donc, je sais que ça peut sembler surprenant, mais je crois que c'est important de le dire tout de suite, que la méditation que je fais n'est pas cette méditation-là. Un des livres qui a le plus grand succès sur la méditation se nomme « Calme et attentif comme une grenouille ». Je trouve ça inquiétant. Je ne parle pas du contenu du livre, qui a plein de qualités, mais je parle du titre et du projet qui est véhiculé. Je trouve que c'est inquiétant. Je trouve que essayer de faire d'un enfant quelqu'un de calme comme une grenouille me semble extrêmement problématique. Et en plus, c'est d'autant plus problématique que dans les textes de la tradition bouddhique que j'ai étudié sur la méditation, on décrit toujours que méditer, c'est pas être comme une grenouille. Parce que la grenouille, elle est là, mais il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'amour, elle est juste là sur sa, enfin, elle a peut-être de l'intelligence et de l'amour, mais c'est pas parce qu'elle est une grenouille qu'elle a nécessairement. Et que la méditation, c'est pas être juste comme une grenouille. C'est pas juste être là, zen. C'est apprendre des capacités de résilience extrêmement profonde. Et je crois que c'est ça qu'on a à apprendre aux enfants. Par exemple, si on va au bout de la logique actuelle, eh ben, imaginons que tous ces enfants pratiquent cette méditation dans 20 ou 30 ans, ou dans 15 ans, disons, quand ils seront de jeunes adultes, ils seront complètement handicapés parce qu'ils vont faire face exactement comme nous faisons face en ce moment à un monde qui s'effondre. Ils sauront rien faire d'autre que méditer pour rentrer dans leur bulle au lieu d'apprendre à être ouvert. Et donc, c'est ça, j'essaye dans le livre de redéfinir autrement la sérénité en disant que comment être serein, c'est sortir d'un certain modèle statique dans lequel il faudrait être zen, ne rien sentir, pour un modèle plus dynamique dans lequel on est serein, même si parfois on peut avoir peur, mais on a un cap, on a une vision, on a une espérance, voilà, disons.
Et est-ce qu'on peut dire du coup que c'est une forme d'acceptation et d'accueil de toutes ces émotions ?
L'accueil et l'acceptation sont un des éléments que je crois central à la méditation et à ce que je défends pour être serein. C'est-à-dire l'accueil, c'est clair que c'est très important. Mais il n'y a pas que l'accueil. Il y a aussi comment on transforme après. Mais l'accueil, oui, la première chose, c'est un accueil ouvert, chaleureux, vrai, authentique, sincère. C'est frappant parce que j'ai l'impression que pour les enfants, on commence à comprendre que si un enfant est énervé, il faut l'écouter. Je pense que maintenant, depuis une dizaine d'années, les choses ont beaucoup évolué. Moi, quand j'étais enfant, si je m'étais en colère, on dit c'est mal. Faut pas te mettre en colère, c'est pas bien. Va au piquet, va au coin. fallait pas être, moi je suis hypersensible, c'est horrible. Comme il fallait surtout pas que je sois hypersensible. Faut pas que je sois hypersensible, faut pas que je sois en colère, faut pas que je sois triste. Moi j'étais souvent triste. Faut pas que je sois triste. Maintenant on comprend que c'est horrible, que un enfant, il faut avoir de la tendresse et de l'accueil, et vous avez raison. Donc un enfant aujourd'hui qui est énervé, on essaie de l'écouter, pourquoi il est énervé. Et on se rend compte que quand l'enfant explique, quand il y a un dialogue, quand il y a une rencontre, l'enfant s'apaise. Et dans mon livre que j'avais écrit, Foutez-vous la paix, j'avais beaucoup fait la distinction entre calmer un enfant et apaiser un enfant, en montrant à quel point calmer c'est violent et apaiser c'est pas du tout la même chose. Calmer un enfant en colère, c'est vouloir qu'il soit pas en colère. L'apaiser, c'est l'aider à traverser sa colère et sans que ça lui fasse mal, ce qui est un projet très différent. Mais ce qui m'étonne, c'est que si on entend très bien ça pour les enfants, enfin on commence à comprendre ça pour les enfants, et puis j'aime beaucoup le travail de Catherine Guéguin, une amie que j'aime beaucoup. Je trouve que son travail a très bien montré à beaucoup d'enseignants que aujourd'hui, le fait de ne pas accepter l'émotion de l'enfant a des conséquences même neurologiques, même sur ses capacités cognitives. C'est pas seulement qu'il va se sentir mal à l'aise, mais ça a des répercussions beaucoup plus grandes qu'on ne pouvait le penser il y a encore une vingtaine d'années. Mais pour les adultes, je crois que c'est pas du tout compris. Je crois que le message qu'on fait passer aux adultes, qui est extrêmement angoissant, c'est qu'ils doivent toujours, toujours tout assurer. Qu'ils sont toujours en faute s'ils ont peur, s'ils sont angoissés, que les émotions, ça se transforme pas, il faut juste pas les sentir. Et donc, je trouve que c'est frappant que on commence à comprendre certaines choses pour les enfants, mais les parents sont souvent prêts à accueillir leur enfant qui a peur, mais ils sont pas du tout prêts à accueillir l'enfant en eux qui a peur. Je sais pas si vous partagez ce point de vue, mais...
Ah, si, si. Et j'ai surligné une phrase dans votre livre que j'ai beaucoup aimée. Toutes nos émotions ont une place dans notre corps. Et vous parlez notamment de la peur. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Avoir accès à nos émotions, c'est pas du tout évident. Et nous, adultes, nous sommes souvent... On a tellement voulu bien faire, tellement voulu être performant, assurer tout, qu'on s'est beaucoup coupé de l'écoute de nos émotions. Et on a tous pris entre soit j'écoute, mais je risque d'être submergé, soit je nie mes émotions. Et donc avoir un autre rapport, c'est difficile. Et ce qui est très aidant, ce que les pratiques de méditation que nous faisons, c'est que en s'ouvrant à notre corps, en sentant où dans le corps l'émotion est là, c'est beaucoup plus facile d'entrer en rapport à elle. Que les émotions ont des échos corporels. Enfin, des échos, c'est même pas tout à fait bien dit. On habite des endroits de notre corps, et en entrant en rapport à notre corps, ça peut nous aider à savoir ce que nous vivons. Parce qu'au fond, toute émotion, elle nous dit quelque chose. On est tellement dans un rapport infantile aux émotions aujourd'hui. Je pense que ce qui rend les gens très angoissés, c'est que le discours ambiant est très infantile sur les émotions. Je m'en suis rendu compte, enfin, je le sais depuis longtemps, mais j'ai été frappé parce que il y a quelques temps, j'étais à la télévision le jour où le ministre de la Santé avait annoncé que les restaurants allaient fermer à Marseille. Et comme j'étais sur le plateau, je faisais très attention à ce qui se passait, plus que quand je regarde juste la télévision de loin. Et j'étais frappé parce que on interrogeait à chaud les restaurateurs en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensaient, et ils disaient qu'ils étaient très en colère, et c'était tout. Et je me suis dit, mais c'est atroce. La télévision pense qu'elle fait son travail d'être du côté des gens, mais en fait, pas du tout. Elle enferme les gens dans l'immédiateté de ce qu'ils ressentent, sans qu'il y ait de la place pour prendre du recul, de la hauteur, sans essayer de voir si ça peut se transformer, sans mettre ça en perspective. Ils ont en plus gardé sans doute à l'antenne les témoignages les plus intenses, les plus émotionnels, parce que on est plus frappé, donc il y a plus d'audience. Et donc du coup, nous, on prend ça en pleine figure, parce qu'on essaye de se tenir un peu informé. Mais en fait, c'est pas une information, ça. C'est juste enfermer les gens dans la peur, dans le ressentiment, dans l'immédiateté des émotions. C'est très, très archaïque et infantile en réalité. Et d'un seul coup, là, j'ai compris pourquoi tant de gens vont mal et paniquent. Parce que, au lieu d'essayer, on n'arrive pas à faire les deux en même temps. En plus, en ce moment où vous m'interrogez, alors que nous allons sans doute être à nouveau, enfin, nous allons être reconfinés, on voit bien qu'on n'arrive pas à entendre deux choses en même temps. Est-ce qu'on peut entendre nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes, honnêtement, et entendre en même temps qu'on n'est pas que ça, et faire jaillir en nous des forces, de créativité, d'espérance, de prendre de l'espace, de la hauteur, et on n'arrive pas à faire les deux en même temps. Si on parle de la hauteur, on a l'impression que c'est au détriment de l'expérience de peur que nous avons, et donc que c'est abstrait. Et si on parle des peurs, il faut qu'on y succombe et qu'on y soit enfoncé, qu'on nous enfonce bien la tête dans notre peur. Et là, je trouve que ça, c'est affreux. Et je pense que être adulte, ce que j'essaie de défendre dans mon livre, c'est être adulte. Ce que nous avons besoin, c'est les deux ensemble. Oui, bien sûr, là, j'ai peur. Bien sûr, je suis inquiet. Et puis, j'interroge cette inquiétude. Et en même temps, je reste pas là. Je donne de la hauteur. Je vois les deux choses ensemble.
Et alors, je suppose que pour les enfants, du coup, pour leur expliquer, ces bouleversements, comment s'y prendre? Est-ce qu'il faut faire de la même façon que comme on se l'applique pour nous?
Déjà, si nous, on le fait pour nous-mêmes, l'enfant, il sent tout, c'est terrible. Les enfants, c'est des éponges. Ils sentent très bien dans l'état dans lequel on est. L'enfant, si on lui dit la vérité, il est apaisé. Mais pour dire la vérité, il faut entrer nous-mêmes en rapport à elle. Donc, je dirais, avant de savoir qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant, il faut déjà savoir ce qu'on se dit à soi-même.
Bien sûr.
Et si on est pris par la panique, comment on peut parler à l'enfant? Donc, ça demande du travail. On est vraiment handicapé. On ne nous apprend pas du tout. On ne nous apprend plus à savoir comment on s'apaise soi-même. Donc, je pense qu'il faut essayer de trouver en soi par où quelque chose comme une forme de sérénité a du sens. Et à partir de là, on peut aider l'enfant. Ça peut être une formidable occasion pour montrer aux enfants qu'on n'est pas prisonnier de ce qui nous arrive, que ça peut se travailler, se transformer, que la vie est faite nécessairement de heurts, de malheurs, de difficultés, et que ce qu'un parent a à apprendre à un enfant, c'est lui donner à la fois une sorte de confiance qu'il peut traverser les difficultés. Donc là, d'un certain point de vue, c'est une chance extraordinaire d'éducation. Mais vous voyez, à nouveau, on est pris par l'idée que j'énonce beaucoup dans le livre, que la sérénité, c'est une sorte de positivité constante, ce qui, à mon avis, est profondément irrationnel et abstrait. Non, ça va jamais toujours bien. Toute personne dans sa vie a traversé des épreuves, des difficultés, et ce qui importe de transmettre, c'est que c'est pas la fin du monde. Donc c'est important, ce que je dis dans le livre, que je crois important, qu'on peut dire à un enfant, oui, là nous vivons une crise, et dans l'histoire de l'humanité, depuis le temps les plus anciens, depuis que les hommes sont hommes, il y a eu des crises. Chaque génération a vécu des crises. Et puis vous pouvez raconter à ce moment-là l'histoire de votre famille. Moi, mon père a fait la guerre d'Algérie, mes grands-parents ont failli être déportés. C'est pas vraiment un miracle qu'ils ont survécu. Et on peut... Alors après, c'est selon l'âge de l'enfant et ce qu'il connaît déjà, mais on peut intégrer la difficulté dans une longue histoire et qui montre que les êtres humains ont su surmonter des crises, que s'il est là lui-même, c'est que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents ont vécu des difficultés. Et du coup, on sent que c'est pas la fin du monde, on sent autre chose. Évidemment, là, ça va contre le temps de l'actualité. Vous allumez l'actualité, vous avez, il y a eu tant de morts aujourd'hui, vous êtes coincé. Donc, être serein, vous voyez, c'est pas dénier la réalité, mais c'est lui donner un peu plus de relief et d'épaisseur. Quand la réalité a plus d'épaisseur, paradoxalement, on est plus serein. Ce qui nous panique, c'est quand la réalité est écrasée en deux dimensions.
Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre également, c'est que vous mettez particulièrement en avant le fait qu'un être humain n'est jamais sans faille.
Ça, c'est crucial parce que je trouve qu'on est dans un temps où on a le modèle que nous devrions être comme des robots. Que si nous avons peur, si nous avons des difficultés, nous sommes en faute. Or, en réalité, c'est beau aussi. Donc, je pense que là, il y a quelque chose de... Je raconte dans le livre comment grandissent les homards. Et ils ont une carapace. Ils sont tout petits au début. Et la carapace, la maman, ils sont à l'étroit. Et donc, ils sont obligés d'aller sous une pierre, abandonner la carapace pour en faire une plus grande. Et s'ils voulaient juste être positif, le homard, eh ben, quand il sent à l'étroit, il dirait « Oh non, non, tout va bien ». Il se condamnerait à de grandes souffrances. Et donc, on voit bien que la faille, l'imperfection, loin d'être un manquement d'être, participe de la plénitude d'être. Et ça, c'est très, très, très important de réussir à comprendre ça. C'est la base de toute éducation.
C'est ça. Et je trouve notamment ce qui est intéressant également dans votre livre, par rapport à la culpabilité qu'on peut ressentir durant ces moments de crise, ce que vous mettez beaucoup en avant, c'est plutôt que se demander pourquoi on vit cette crise, on doit plutôt se demander comment on doit la vivre.
Oui, ça, je pense que c'est très important de sortir de pourquoi, parce qu'après, on se sent en faute, on se sent coupable. Au fond, beaucoup de mon travail, depuis déjà Foutez-vous la paix, et dans là, comment rester serein, on est serein en essayant d'être libéré de la culpabilité. Je pense que ça, c'est très, très important. Moi, un des phénomènes qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué quand j'ai compris, c'est que un enfant qui vit un événement difficile a tendance à croire que c'est de sa faute, même si c'est absolument aucun rapport. Ses parents divorcent, la première tendance, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Un enfant battu a tendance à croire qu'il le mérite. Et ça, c'est très, très abyssal, psychiquement. Je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus, parce que ça en dit beaucoup sur le sentiment de culpabilité. Et donc, je crois qu'il faut se libérer de la culpabilité, et j'en parle beaucoup dans le livre, et la culpabilité se guérit, d'un certain point de vue, par la reconnaissance de ce que je suis. Et c'est une autre notion auxquelles je reviens beaucoup, je trouve que il y a une reconnaissance qui est nécessaire. L'enfant ne peut grandir que s'il est reconnu. Comme philosophe, j'ai beaucoup travaillé sur les violences du quotidien, le stress, le burn-out et tout ça. Et il y a des études qui ont été faites sur ce qui réellement marche pour prévenir les risques psychosociaux et éviter les burn-out. Et on s'est rendu compte que ce qui marche le mieux, c'est pas qu'il y ait moins de temps de travail et tout. Ou alors aujourd'hui, tous les trucs, faut qu'il y ait un baby-foot, faut qu'on ait bien être au travail, toutes ces conneries qui sont irresponsables, parce que c'est pas ça le problème. Ce que disent les gens et les études ont montré, c'est la reconnaissance. Quand les gens ont l'impression d'être reconnus pour leur travail, ils peuvent travailler dur, mais souvent ce qu'ils font qu'ils explosent, c'est que on leur demande des choses sans les reconnaître, qui n'ont, en leur enlevant le sens. Par exemple, je travaille beaucoup pour les personnels soignants, mais une des plus grandes souffrances, c'est qu'on mesure le nombre d'actes d'un infirmier dans une journée ou d'une infirmière, parce qu'on veut rationaliser le soin, mais on ne fait plus rentrer dans ces calculs le nombre, la qualité de présence, le temps qu'on met à parler à quelqu'un, qui ont pourtant un rôle majeur dans la vérité du soin, un rôle majeur dans le fait que des gens décident de consacrer leur vie à aider les autres. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils sont mus par le désir de quelqu'un. C'est ça qui importe. Je crois que se libérer de la culpabilité, c'est très important, et aider l'enfant à accepter ses défauts, ses différences, ses particularités, c'est très important. Et j'en parle beaucoup, et je pense que ça passe souvent par, ça dépend l'âge des enfants, mais souvent ça passe par des histoires. Depuis le petit pousset, toutes les histoires que nous ont laissées la tradition, parce qu'au fond, les contes s'enracinent dans des traditions très, très anciennes, nous disent bien que c'est le plus petit que personne ne considérait qui a des capacités extraordinaires. Et c'est toujours comme ça. Perceval, dans les romans de Chrétien III, c'est le plus simple, celui qui n'a pas d'éducation. Et il y a toujours quelque chose comme ça. Donc c'est important de montrer à l'enfant que sa singularité n'est pas une faute. Et après, s'ils sont plus grands, alors là, il faut commencer à leur expliquer un peu plus. S'ils sont adolescents, il faut leur parler là de ce que cache la normativité de notre temps. Ils sont victimes d'une forme de normativité, mais ils s'en rendent pas compte. Mais comme tout le monde, nous aussi adultes, on est pris par. Nous confondons la raison avec la normativité. C'est un autre sujet qui me hante depuis très longtemps. C'est-à-dire, on met des normes et on pense que plus il y a de normes, plus on est en rapport rationnel au réel, mais absolument pas. Les normes que nous imposons sont toujours extrêmement partielles. Dans les années 60, une étude avait montré que il y avait des pilotes qui mouraient. Et donc ils avaient dans les années 50 plutôt. Et donc ils avaient fait des études en essayant de comprendre qu'est-ce qui faisait défaut dans la formation des pilotes et entraînait qu'il y avait des accidents. À un moment, ils se sont rendus compte que c'était pas les pilotes disaient que c'était pas la formation, mais que c'était le cockpit des avions. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait un cockpit avec une norme. Ils avaient pris tous les pilotes et ils avaient fait une statistique et ils avaient construit un cockpit statistiquement vrai. Et ils se sont rendus compte que ça marchait pas et qu'il fallait faire des sièges ajustables pour que chacun puisse s'installer dans le siège comme il est lui. Et je pense que c'est très éclairant. Il faut inventer tout comme ça. Il faut inventer une éducation où on peut ajuster son siège. Il faut inventer une vie dans laquelle on ajuste son siège. Et on n'est pas en faute d'ajuster son siège, c'est la possibilité de donner le meilleur de soi pour les autres, d'ajuster son siège.
Sylvie, j'aurais bien aimé aussi que tu nous parles notamment sur le sujet d'acceptation de la singularité des enfants. Toi, en tant qu'enseignante, tu évolues avec beaucoup d'enfants qui vivent des drames, des traumatismes. Et j'aurais bien aimé que tu nous en parles un peu plus, et notamment de l'histoire que tu leur racontes sur le sac à dos. Je trouve ça assez parlant.
Ben déjà, je suis tout à fait d'accord avec Fabrice, et c'est quelque chose sur la norme qui me travaille depuis 30 ans. Parce que c'est vrai qu'on veut toujours mettre les enfants dans un moule, dans une norme, alors que la richesse, moi ce que je leur explique chaque jour, c'est que leur richesse, c'est ce qu'ils sont eux, c'est leur singularité, quoi. Et qu'ils soient dyslexiques ou qu'ils soient précoces, il y en a beaucoup, ils veulent ils veulent en général cacher ça parce qu'ils veulent être dans la norme. Alors qu'au contraire, même quelque chose qui est difficile à vivre, c'est ce qui va aussi les rendre différents, les rendre peut-être plus volontaires, plus. C'est ce que je leur explique tous les jours. Donc moi, je travaille énormément là-dessus et j'espère que l'éducation va continuer, va se mettre dans ce sens-là, puisque c'est les valeurs premières de Montessori que je défends beaucoup. Et oui, alors sur les drames, malheureusement, c'est vrai que chaque année, dans nos classes, on a des enfants qui vivent des drames. Voilà, j'ai un petit garçon l'année dernière qui a perdu sa maman. Quelques années d'avant, c'était un petit garçon qui a perdu son papa. Et c'est vrai que c'est pas facile en tant qu'adulte de les accompagner dans ce drame, parce que c'est un drame. Et il y a certains adultes qui, après, leur trouvent toujours des circonstances atténuantes. C'est-à-dire, s'ils font ça, c'est parce qu'ils sont tristes. S'ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas leur... Maman, s'ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas leur papa. Et malheureusement, moi, c'est vrai, je leur dis, c'est comme s'ils avaient un sac à dos à porter. Ben, ils doivent vivre avec ce sac et vivre le mieux possible avec ce sac. Mais ça fait partie de leur vie. Et on ne peut pas leur dire, bah, bon, déjà, il faut enlever la culpabilité, parce que c'est vrai que souvent, ils pensent qu'ils ont fait une bêtise, et que, ou alors c'est qu'ils n'ont pas été assez gentils, ou ceci ou cela. Puis parfois aussi, ils le cachent, parce que, encore une fois, pour cette norme. Mais c'est vrai que le premier travail, je trouve, c'est de les aider à vivre avec ce drame et de pas en faire une excuse, quoi. Parce que c'est vrai que souvent, quand ils transcendent tout ça, bah, ça devient des êtres, bah voilà, traverser des grosses épreuves. C'est vrai que ça transforme. Ça transforme pas négativement, forcément. Donc moi, c'est vrai que c'est ce que j'essaye de leur expliquer. Mais c'est vrai que c'est des épreuves difficiles. Mais ça leur permet aussi de s'adapter, d'arriver à trouver des solutions pour vivre avec ça, quoi.
C'est clair.
Voilà, donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Fabrice là, sur tout ça.
Déjà, Montessori, c'est ça, déjà, c'est l'idée de...
Oui, c'est la base.
Une éducation qui s'invente pour chacun, plutôt que
voilà,
de faire
entrer
tout le monde dans une norme avec toute la violence que ça implique, et destruction.
Oui, puis des étiquettes. Et puis après, on leur met des étiquettes. Ça, j'aime pas ça non plus, quoi. Lui, il est trop rêveur. Lui, il bouge trop. Lui, il travaille. Il comprend rien. Lui, il avance trop vite. Et après, c'est ça qui est dangereux. C'est qu'après, on leur met tous, chacun, une étiquette, quoi. Et ça, c'est terrible d'avoir une étiquette, je trouve.
C'est clair.
Et alors, on arrive à la fin de cet entretien. J'aurais bien aimé, Fabrice, que vous nous parliez d'espoir. Parce que j'aime beaucoup ce principe que vous mettez en avant. Et je trouve que c'est un beau message à transmettre aux adultes et aux enfants.
Comme philosophe, souvent l'espoir a été dénigré. Spinoza, les stoïciens, tout ça, c'est des gens qui considèrent que l'espoir c'est naïf et qu'il faut juste être dans le rationnel. Mais à un moment, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, s'ils n'ont pas d'espoir, c'est tout simple, ils vont pas se lever. J'ai beaucoup travaillé, je vous ai dit, avec des soignants, j'ai beaucoup travaillé à former des médecins à la méditation, des psychiatres. J'ai un peu visité les hôpitaux psychiatriques et je me suis rendu compte que c'était un peu tout ça était très abstrait. Au fond, il y a des moments où on a besoin d'avoir de l'espoir, que c'est pas du tout, mais qu'il faut juste faire la distinction entre l'espoir. Moi, je fais pas de distinction entre espoir et espérance et un projet organisé. Et donc souvent, les gens se disent je peux pas avoir d'espoir parce que qu'il y a une manière un peu qui vient un peu de cette critique de la philosophie, même si les gens ne le savent pas, mais ils se disent c'est pas légitime d'avoir de l'espoir parce que comment je pourrais être sûr? Comment je peux avoir de l'espoir aujourd'hui? On va être confiné, ça va être très dur pour l'économie. Comment je peux avoir de l'espoir dans cette situation? Et on voudrait qu'on ait de l'espoir si j'ai une garantie. Mais justement, non. L'espoir, c'est d'un autre ordre. Une des histoires les plus radicales que je connaisse, c'est on demande à Luther: qu'est-ce que vous feriez si demain c'était la fin du monde? Et il répond: je planterais un pommier. Et je trouve que c'est ça l'espoir, voyez? Luther. Et les gens me disent: mais c'est idiot puisque c'est la fin du monde. Alors les gens veulent faire quoi? Parce que c'est la fin du monde, donc on va se défoncer le plus possible. Ça n'a pas de sens. Et donc ce que fait Luther, c'est rester humain et parier pour ce qui est le plus beau de son humanité. Et peut-être qu'en faisant ça, du reste, ça va pas être la fin du monde. Peut-être que quelque chose va changer. Donc l'espoir, c'est parier pour ce qu'on peut pas prévoir, pour le possible. Mais en réalité, c'est pas aussi irrationnel que ça en a l'air, parce que on ne sait jamais ce qui va se passer. Le propre de l'existence humaine, c'est que on ne sait jamais. Il y a toujours, personne ne pouvait prévoir le confinement. Personne ne sait comment, de quoi va être fait l'avenir. Et c'est évident, quand on vit un deuil, on a l'impression que on relèvera jamais. Mais on peut s'en relever. Et donc l'espoir, c'est parier pour quelque chose qu'on n'arrive pas à entrevoir tout de suite. Mais laisser ouvert l'ouvert. Laisser ouvert le possible. Je crois que c'est très très sain. Je crois que c'est très très important. Si c'est la fin du monde ce soir et que votre enfant tombe, vous allez quand même le soigner. Et donc l'espoir au fond, c'est sortir de la logique de ce qui est purement dans nos calculs efficaces pour entrer dans un autre ordre, une autre logique.
C'est très beau. Merci beaucoup Fabrice pour ce moment. Cet épisode sera clé pour les prochains moments qu'on va vivre, potentiellement de crise. Et ça nous aidera et ça aidera beaucoup nos auditeurs, j'en suis sûre. Donc merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous.
Merci, ouais, merci beaucoup.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.